France Culture.
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un jeu de massacre dans le fracas des quilles qui s'écroule. C'est dans un bowling, à Paris, que commence le roman de Roger Vaillant, La Truite, publié en 1964, un an avant sa mort. La Truite, c'est Frédérique, une jeune fille originaire du Jura, son père est éleveur de truites, voilà tout. C'est une vampe, une allumeuse, elle est mariée et elle vampe, donc, d'autres hommes, pour les arnaquer, des hommes riches, bien sûr. Les femmes froides comme des truites, on en trouve d'autres dans l'œuvre de Roger Vaillant. Roger Vaillant qui avait obtenu, on le sait, le prix Interallié en 1945 pour Drôle de jeu et le prix Goncourt en 1957 pour La Loi. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 mai 1964.
Étienne Laloux présente Le goût des livres. Aujourd'hui, un roman de Roger Vaillant, La Truite, dont les extraits seront lus par Bernard Véron.
Roger Vaillant est incontestablement l'un des écrivains les plus excitants de notre époque. Je sais que, pour ma part, j'attends toujours avec impatience son prochain roman, à la fois pour le plaisir de le lire et parce que chaque nouveau livre vient s'inscrire dans une courbe, au sens scientifique du mot, qui est un peu la feuille de température de notre temps. En effet, s'il y a peu d'écrivains qui soient aussi attentifs que Roger Vaillant à la singularité, à l'originalité des individus, il y en a peu aussi qui peignent avec autant de force que lui les rapports de l'individu avec la société. Autrefois, dans Drôle de jeu, par exemple, la société n'était là qu'à titre de toile de fond. Les aventures d'un homme très libre, très désinvolte, se déroulaient sur cette toile de fond. Puis, peu à peu, la société est venue au premier plan. C'est l'affrontement entre l'individu et la société qui est devenu l'essentiel. À partir du roman intitulé « 325 000 francs », on peut même dire que cet affrontement est devenu la matière même du livre. 325 000 francs représente d'ailleurs un tournant décisif. Non seulement Roger Vaillant commence à y dépeindre des individus déterminés par la société, et non plus des êtres d'exception qui échappent aux règles de la société, mais il s'assigne à lui-même une place à la fois dans la société et dans ses propres romans. Il est l'écrivain, il est le témoin, celui qui regarde, à qui l'on raconte, et qui essaie de comprendre. Je crois que l'on peut affirmer que c'est à partir de ce moment-là que Roger Vaillant devient véritablement romancier. À partir de ce moment-là que peut naître ce chef-d'œuvre qui s'appelle La Loi. Parlant de La Loi à ce même micro au moment de sa publication, je l'avais défini comme un roman révolutionnaire qui dresse un constat de déchéance. Roger Vaillant, disais-je, y a mis à nu les ressorts d'une société, la nôtre, qui, n'étant plus capable de secréter son propre humanisme, déshumanise les individus dont elle est composée, jusqu'à se transformer en un vaste jeu de massacre, immoral et vénal. Eh bien, c'est l'apothéose de ce jeu de massacre que nous présente aujourd'hui La Truite, dont le début se déroule au bowling du Point du Jour, dans le fracas des quilles qui s'écroule.
Le bar et le restaurant derrière les stands s'étaient remplis à la sortie des spectacles. Foule probablement bruyante, mais le grondement des boules sur le bois des 18 pistes alignées côte à côte, le fracas des quilles abattues, les bruits multiples de la machinerie qui renvoie les boules et replace les quilles, roulements, chuintements, éclatements, déclics, alternés ou continus, couvraient les voix des nouveaux venus affairés à trouver une table, un tabouret, et, hélant les maîtres d'hôtel, je le devinais au mouvement de leurs bouches, ouvertes et refermées convulsivement, comme il arrive aux truites dans un bassin mal approvisionné d'air. La foule, le vacarme, mettait en relief, jusqu'à provoquer pour moi un malaise, l'isolement de l'homme et de la femme qui jouaient sur la piste 18. Comme la plupart des autres joueurs, comme nous-mêmes, lui portait chemise blanche, les manches relevées sur le coude, cravate sombre, rentrée dans la chemise entre le deuxième et le troisième bouton, et pantalon noir assez long pour que le pli cassât légèrement sur la chaussure, spécial bowling. tenue de rigueur pour les championnats, pas obligatoire en temps ordinaire, mais généralement observée au point du jour, surtout le mardi soir, considérée ici, bien que cela ne soit pas dans le règlement, comme soirée de gala. La jeune femme, comme la plupart de nos compagnes, en jupe de toile avec plis creux sur le ventre et pull de teinte unie. L'anonymat du bowling m'enchante. Impossible de deviner du premier coup d'œil le milieu, le rang, la classe, la caste. C'est encore plus fascinant que le métro. La première fois que je suis allé dans un bowling, un soir de championnat, en province, pas une seule femme en piste. Tous les joueurs jeunes, pas tout à fait, entre 30 et 40, tous en tenue, et dans les gestes, le maintien sur le visage, un air de connivence, comme s'ils participaient à un rite qu'il était interdit de dévoiler. Facile de deviner qu'ils jouaient de l'argent, bien que ce soit interdit par la loi sur les jeux dans les établissements publics, les règlements de la fédération, ceux de chaque bowling, il faut la sanction de l'argent pour que les gestes d'un jeu prennent la même solennité que ceux de l'amour. Il faut l'interdiction surmontée pour qu'ils aient la même obscénité. Mais que faisaient ces hommes quand ils ne jouaient pas aux quilles? Quand ils ne s'occupaient pas, dans un même air de componction, à rendre louches les gestes apparemment les plus naturels, soulever, porter, viser, apprécier la distance, calculer l'écart, courir, lancer? Derrière chaque visage, j'essayais de deviner l'homme de métier, barman en congé, bookmaker en vadrouille, boxeur échappé à l'entraînement, fils de famille en train de regagner les pourboires qu'il a laissés au barman, universitaire chahuté à la recherche d'une confrérie où il soit respecté. Je ne parvenais pas aux mêmes certitudes que dans le métro. Les joueurs, leur coup fait, quand ils se retrouvaient dans le stand, restaient côte à côte, le plus souvent debout, l'air compassé, comme les participants à une cérémonie funèbre, à un hommage aux morts d'une guerre, à l'intronisation d'un souverain. C'était en province. Le rituel n'est pas moins scrupuleusement respecté au point du jour, mais avec l'apparente désinvolture qui ne s'acquiert que dans les grandes capitales.
Qu'on ne me dise pas que c'est par hasard, pour des raisons de pittoresque pure, que l'auteur a choisi ce décor. Il est trop évident qu'il y voit l'image et le symbole de notre civilisation fondée sur des valeurs purement arbitraires. Notre civilisation où l'humanité se sépare en deux clans, d'une part, le plus grand nombre, ceux qui, comme les quilles, sont destinés à être abattus, d'autre part, ceux qui abattent les quilles et qui se croient des vainqueurs, mais qui sont eux aussi des marionnettes dont les fils sont tirés par les véritables puissants de ce monde, ceux qu'on ne voit jamais au bowling de la vie. Roger Vaillant les a dépeints dans la truite, ces souverains du monde contemporain, ces capitalistes richissimes dont les décisions font et défont le bonheur de millions d'individus. Il les a appelés les tabacs noirs. Ils sont les détenteurs d'un pouvoir purement fictif, puisqu'il est fondé sur l'argent, et que l'argent n'a aucune valeur réelle, qu'il est une convention. C'est pourtant sur cette convention, et sur quelques autres, qu'est fondée notre société. Les dieux et la fatalité de la tragédie antique ont été remplacés par un certain nombre de mythes, dont le plus important est celui de l'argent. Donc, à notre époque, seule une personne ayant un lien privilégié avec les nouveaux dieux, avec les tabacs noirs, peut être un personnage de tragédie.
Je venais de commencer d'écrire la truite. C'était la première fois que j'entreprenais d'écrire une histoire sans en connaître le dénouement, de la raconter à mesure qu'elle se déroulait. Y aurait-il un dénouement ? S'il n'y en avait pas, je serais tenté de l'inventer. Cela m'ennuierait. La vérité de la vie est presque toujours plus forte que la vérité romanesque. La vie, l'histoire des sociétés, des individus, s'organise en actions qui commencent et qui finissent, articulées, une action militaire, une action dramatique. Le romancier raconte l'histoire, des histoires. Une bonne histoire est bien organisée, comme un organisme vigoureux. Le soir du bowling, j'avais pensé qu'il était possible qu'une action commençât. Mais beaucoup d'actions avortent, comme les travaux d'ébénisterie qui resteront inachevés sur les établis en désordre dans l'atelier de Rambert. Lorsque j'eus retrouvé, 6 mois après la soirée du bowling, Frédéric et Galucha chez Rambert, à Monaco, je fus sûr qu'une action était nouée. Mais pas du tout certain de m'intéresser suffisamment à cette action-là pour entreprendre de la raconter. Racine dit dans une de ses préfaces que seules les actions des souverains peuvent inspirer un auteur de tragédie. Au fait, il n'y a que la tragédie qui m'intéresse. Or, ni Rambert, ni Loup, ni Saint-Genis ne sont des souverains. Et Frédéric, jusqu'ici, quoique sa démarche puisse être celle d'un personnage souverain, reste une indéterminée que nous ne connaissons que par ses changements d'exposants. Mais le récit de Saint-Genis m'avait ouvert des perspectives nouvelles. Les tabacs noirs sont les souverains du monde contemporain, à l'Occident, souveraineté abstraite. c'est d'avoir entrevu la silhouette du vieil Isaac aux côtés de la jeune Jurassienne dans l'avion transcontinental qui m'avait décidé à écrire l'histoire de Frédéric.
Car c'est cela avant tout, la truite, l'histoire de Frédéric. Frédéric est la fille d'un éleveur de truites de Lons-le-Saunier. Elle a 23 ans en 1960 quand l'auteur fait sa connaissance au bowling du Point du Jour. Il est en compagnie de quelques amis très riches et de leur femme ou maîtresse. Elle est seule avec son mari, un Lyonnais, Galucha. Elle a l'air d'une petite provinciale sans envergure, et en même temps, elle est fascinante. C'est le secret de cette fascination que l'auteur va chercher à percer tout au long du livre. Frédéric est assez jolie, sans plus, mais elle possède une grâce. Elle garde, partout et quoi qu'il arrive, une sorte d'indifférence telle que rien, ni homme, ni événement, ne semble avoir de prise sur elle. Elle est malhonnête avec honnêteté et immorale tout en restant pure. Elle se mêlera bientôt à la bande des amis de l'auteur et elle les possédera dans tous les sens du mot. Elle leur pariera une grosse somme et se révélera brusquement une joueuse exceptionnelle. L'un des hommes l'emmènera ensuite avec lui aux États-Unis pour en faire sa maîtresse, mais elle reviendra intacte. Un autre tombera éperdument amoureux d'elle et se ruinera totalement sans jamais obtenir ses faveurs. Quant au mari de Frédéric, il traînera d'une clinique psychiatrique à l'autre, lui qui espérait se viriliser en épousant Frédéric et qu'elle a achevé de déviriliser. En interrogeant tous ces hommes, et les femmes qui les accompagnent et qui elles aussi sont loin d'être hostiles à Frédéric, en interrogeant Frédéric elle-même aussi, l'auteur essaiera de recomposer le portrait de cette fille pas comme les autres, qui se conduit comme une prostituée ou presque, tout en étant vierge physiquement et en ayant échappé moralement à toutes les compromissions. Il reconstituera son histoire et en particulier apprendra de la bouche de la jeune femme qu'elle avait fondé avec deux camarades à 14 ans une société secrète dirigée contre les hommes et destinée à tout obtenir d'eux sans rien leur accorder. Elles étaient un peu, ces filles, ce que James Dean et Marlon Brando étaient en garçons. Et l'auteur comprendra peu à peu que l'étrangeté, la singularité de Frédéric vient de ce qu'elle échappe aux lois qui régissent les autres hommes. Elle appartient à l'espèce animale et non à l'espèce humaine. Elle est une truite. Douce et cruelle, insaisissable et incapable de saisir, incorruptible et corruptrice, attirante et dramatiquement solitaire.
Frédéric est tellement intégrée à elle-même qu'il semble que son origine, son éducation, ses expériences n'aient aucune influence sur son comportement. Elle est un élément, comme le fer, le soufre. Marilyn prétend qu'elle a l'odeur de la pierre à feu. Rien ne la détourne, nous ne savons pas de quoi, et elle non plus. Elle n'obéit qu'à sa propre loi, comme les bêtes sauvages. Elle est légitime. D.H. Lawrence, dans une lettre à Edward Garnett en 1914, « Ce qui est intéressant dans le rire d'une femme est semblable à la liaison des molécules d'acier ou à leur réaction à la chaleur. Voilà ce qui nous intéresse dans le rire de Frédéric. » Frédéric, quand elle marchait côte à côte avec Rambert sur le terrain de golf de Biot, prêtait l'oreille à ses projets d'évasion, l'encourageait, consentait. Marilyn ne pense pas qu'elle n'obéissait qu'à la cupidité, la voracité. Frédéric, au dernier moment, s'était dérobé. Marilyn ne pense pas qu'un scrupule d'épouse ou un mouvement de compassion pour Galucha suffisent à expliquer sa dérobade. Les coups en dessous de Rambert, ses procédés retors, sa méfiance, son retroussi de lèvres, ce sont manières de sale bête, mais manières de bête. Comme les bêtes sauvages, il a toujours été aux aguets, guettant la proie, redoutant de devenir proie, et ne s'intéressant absolument à rien d'autre dans le monde. Frédéric et lui se sont reconnus dans la nuit de l'animalité. Si Frédéric s'est brusquement détourné, c'est qu'au moment où ils allaient partir ensemble, conclure une association assurément redoutable, Rambert était déjà atteint du mal dont il est en train de mourir. Il était déjà égaré. Frédéric avait flairé la mort.
Ainsi, tout devient clair lorsqu'on comprend que Frédéric se comporte en animal et non en être humain. De ce fait, elle échappe totalement aux règles qui s'appliquent aux autres. Elle n'est plus déterminée comme eux par la société dans laquelle elle vit. Au fond, comme pour le romancier lui-même, la société n'est pas l'élément auquel elle appartient, mais plutôt son terrain de chasse. C'est sans doute le secret de la fascination que Frédéric exerce sur l'auteur. Ils sont cousins. Mais la truite, ce n'est pas seulement l'histoire de Frédéric. C'est, je l'ai déjà dit, une peinture par la bande de notre société contemporaine, esclave des mythes qu'elle a elle-même édifiés. C'est aussi, comme tous les livres de Roger Vaillant, l'œuvre d'un écrivain au plein sens du terme. D'un homme qui fait de chaque livre une véritable aventure de l'esprit et qui veut que le lecteur participe à cette aventure. Je ne vois pas, dans toute la littérature moderne, de romancier avec qui l'on éprouve aussi fortement l'impression d'être un compagnon de voyage. Lire un livre de Roger Vaillant, c'est penser avec lui, c'est sentir avec lui, c'est démonter avec lui les ressorts de la société, c'est évaluer avec lui les rapports de force entre les individus, et c'est surtout partager avec lui le plaisir d'écrire, c'est-à-dire de trouver à chaque instant la meilleure manière d'exprimer ce qu'il y a à dire, avec le mélange de détachement et de passion qui sied au témoin engagé qu'est Roger Vaillant et que nous devenons tous en sa compagnie. Roger Vaillant, vous avez bien voulu venir au micro du Goût des Livres. Je crois que ça va nous aider à confirmer un peu ce que nous avons dit de la truite et à voir un peu mieux ses prolongements. Je vais d'abord vous demander à vous ce qui vous paraît l'essentiel dans ce livre.
L'essentiel dans ce livre, c'est que c'est la première fois dans un de mes romans que j'ai poussé un faux de personnage d'un être humain qui serait une bête sauvage. Je dis bête sauvage par opposition à animal domestique et plus généralement par opposition à l'homme en tant que tout homme appartient à une société organisée ou plus ou moins bien organisée ou plus ou moins désorganisée, mais à une société à laquelle il cède une partie de sa souveraineté. La bête sauvage, c'est l'individu, l'animal individuel, qui est entièrement maître de lui-même, qui
mais jusqu'ici, vous aviez,
pas apprivoisé.
Vous aviez peint quelquefois des hommes qui étaient ce genre d'animal sauvage.
C'est une des contradictions que j'essaie d'exprimer dans mes livres. C'est que d'une part, je rêve, j'ai perpétuellement rêvé de la bête sauvage, c'est-à-dire de l'être qui n'obéit qu'à sa propre loi, que d'autre part, je suis un homme raisonnable, je suis un homme de mon temps, j'ai une formation idéologique et politique, et je sais que c'est un mythe absurde. Je sais qu'on ne revient pas, comme je le dis à la dernière phrase de la truite, qu'on ne revient pas au bon sauvage. Je sais que l'homme ne retrouvera sa souveraineté que s'il arrive à faire une société sans classe, étant dans l'abondance, etc. Donc tout ça, je le sais très bien. Et je sais en même temps, par moi et par les êtres que je connais ou que j'aime ou que je déteste, qu'il y a dans chacun de nous la nostalgie d'une bête sauvage. Et c'est ce conflit entre le désir d'être une bête sauvage et la claire pensée que ce n'est pas possible, qu'il faudrait d'abord transformer le monde, je crois que c'est un peu, d'ailleurs, comme vous l'avez dit au début de votre entretien, c'est un peu la clé de tout ce que j'ai fait. Enfin, pas seulement la clé, ça donne le sens, c'est ce conflit-là.
Est-ce que, enfin, on a l'impression que ce personnage que vous bercez un peu de votre nostalgie, vous avez tout de même, enfin, c'est plus qu'un mythe, vous réussissez quand même à le faire vivre dans cette société grâce à elle, grâce à peut-être cette vertu qu'elle a de pousser les gens à leurs propres limites, de les faire être ce qu'ils sont vraiment, puisque elle est ce qu'elle est, elle oblige les autres au fond à se dénoncer. Alors vous arrivez quand même à faire, par son truchement à elle, qui est un peu irréel, vous arrivez à faire une peinture de la réalité.
Je crois, mais ça, je crois que c'est le privilège de l'imagination et le privilège du romancier. C'est-à-dire que on fait un moule en creux de quelqu'un, et ça fait vivre les autres, et les autres font vivre ce moule en creux.
Vous avez un autre moyen aussi de recoller à la réalité, j'y étais sensible tout au long de ce livre, c'est l'acte même d'écrire.
C'est ce qui donne un sens à ma vie, enfin, c'est ce qui me permet de me consoler de n'être ni une bête sauvage, ni un grand homme politique. En fait, la plupart de mes camarades du combat politique sont à l'heure actuelle disons tristes, profondément tristes, parce que leurs espoirs de changer la face du monde s'est trouvé reporté en 44, on croyait que ça serait dans les 10 ans qui viennent, maintenant on peut dire en l'an 2044, en l'an 3044, je ne sais pas. Et c'est l'un d'eux qui était un militant qui n'avait jamais été que militant de sa vie, parce qu'on appelle à juste titre un révolutionnaire professionnel, qui m'a dit « mais toi tu peux t'en foutre, après tout, t'es un écrivain ». Et c'est vrai que l'écrivain, dans l'acte d'écrire, se conduit un peu avec les mots comme l'homme politique avec les êtres, avec les sociétés. Il a une matière vraie qu'il peut fabriquer, il peut faire quelque chose de réel avec sa plume, dans le plaisir de faire une phrase, d'organiser un ensemble de phrases, de construire une histoire.
J'ai l'impression, je l'ai eu particulièrement d'ailleurs en lisant La Truite, j'ai toujours l'impression devant votre œuvre qu'il y a, en somme, il y a deux registres. Il y a d'une part les gens, la civilisation, tout ce que vous démontez avec lucidité, presque avec méchanceté, et à côté, il y a une espèce de tendresse que vous avez pour tout ce qu'on pourrait appeler le réel qu'on peut toucher, c'est-à-dire les gestes d'un ouvrier en train de faire une table, l'évolution d'un arbre qui de graine devient grand arbre, a des feuilles, etc. Tout ce qui est la vraie vie.
C'est-à-dire que dans un monde qui se défait, je continue à croire qu'il se défait, un peu trop lentement à mon gré, le geste de l'ouvrier qui manie une matière, déjà quand c'est le ciment armé, ça commence à plus aller bien, le mouvement d'un arbre qui pousse, le geste d'un écrivain qui accomplit une phrase, quand cette phrase tient debout, ce sont des choses réelles dans un monde qui se détruit, dans un monde où la bête sauvage est quand même aussi un mythe, que j'essaie de rendre réel dans mon livre, mais reste un mythe quand même. Le geste d'écrire, comme le geste de manier du fer ou de manier du bois ou d'assembler des pierres, sont des gestes vrais.
C'était Le goût des livres, une émission d'Étienne Laloux, consacrée aujourd'hui à un roman de Roger Vaillant, La Truite, publié aux éditions Gallimard, et dont les extraits ont été lus par Bernard Véron.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 mai 1964.